Le temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM. C'est reparti, comme tous les mercredis, à cette heure-ci. Le temps ne fait rien à l'affaire vous propose pendant une heure un petit tour autour de la chanson. Le temps ne fait rien à l'affaire, une émission préparée, accommodée, mitonnée, mijotée par Jean-François. Le temps ne fait rien à l'affaire sur Marmite FM 88.4.
Sur l'eau.
Allô Mickey, comment faire le beau?
Hey, je sors du chapeau.
Un lapin bleu sur un pédalo.
Il y a des jours où tout est rose, même les poissons rouges sont roses. Hey, parle d'un paquebot.
Remets la pince en haut du vélo.
Hey, pars pas si tôt.
Je faisais causer devant le lavabo.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Marmite FM 88.4 pour une nouvelle livraison du Temps ne fait rien à l'affaire, l'émission de la chanson non crétinisante, puisqu'on vous le dit, c'est que c'est vrai, 144e du nom, mais qui aurait pu, qui aurait dû venir beaucoup plus tôt, il y a 10, 11 ans. Oui, il y a longtemps que j'attendais mon invité d'aujourd'hui, Monsieur Richard Gilly, ou plutôt, devrais-je dire, longtemps que je ne l'attendais plus. Je vous raconte alors. Ça a commencé en avril 1993 dans une FNAC quelconque. Il y a toujours, est-ce qu'il y en a toujours d'ailleurs, j'en sais rien, on trouve bientôt davantage de coupes frites électriques que de disques dans ces magasins-là, en tout cas à l'époque, il y avait encore des points d'écoute où l'équipe de vendeurs mettait à disposition 4 ou 5 disques, dans chaque rayon. Eh oui, il y avait plusieurs rayons de disques dans un magasin comme la FNAC. Maintenant, il faut les chercher. 4 ou 5 disques qu'on mettait en avant et puis qu'on proposait à l'écoute. Alors moi, j'écoutais. J'ai découvert pas mal d'artistes comme ça. Et donc ce jour-là, je tombe sur une pochette étrange dans les gris et blancs, avec une image qu'on aurait pu croire sortie d'un numéro de l'Illustration consacré à l'exposition coloniale de 1937. Ça me rappelait la visite que j'avais faite gamin au musée des arts africains et océaniens, qu'on n'osait déjà plus appeler musée des colonies. Une sorte de collage, peut-être, dont une Vénus noire occupait le centre, cachant en partie un accordéoniste nettement plus palichon, un éléphant, un bout de guitare dans un coin, et puis tout au fond, la tour Eiffel. Ah, bref, ça ressemblait à rien. Ça s'intitulait « Rêve d'éléphant ». L'artiste s'appelait Richard Gilly. Je me suis rendu compte plus tard que je connaissais deux ou trois choses qu'il avait faites avant. Mais je sais pas, sur le moment, le nom m'a rien dit, j'avais dû oublier. Il faut dire que la carrière de Richard Gilly, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. C'est long, ça prend tout de même sa source en 1971, mais de temps en temps, la rivière devient souterraine. Elle continue sûrement à couler quelque part, mais on ne la voit plus. Et puis elle ressort, 4, 7, 9, 13 ans plus tard, roulant pourtant toujours la même eau. Ah bien sûr, ça ne facilite pas le suivi. Alors je les ai écoutés, ces rêves d'éléphant. Et ils m'ont emballé tout de suite. Les poissons roses qui ont ouvert cette émission ouvraient également le disque. Superbe. Et la suite, on s'en passera quelques titres aujourd'hui et puis la semaine prochaine, avec quelques pépites étonnantes. Vraiment, un magnifique album. Je l'ai acheté, je l'ai fait écouter à tout le monde autour de moi. Tout le monde a aimé. Je sais que cet album est un peu passé dans les médias à l'époque. Il a même été clip de la semaine sur M6, je crois. Très bonne critique. Et puis plus rien. Pourquoi ? Mystère. Quand j'ai commencé à recevoir des artistes dans le temps de faire rien à l'affaire, j'ai bien sûr très vite pris contact avec Richard Gilly, qui avait entre-temps sorti un autre album, Des années d'ordinaire. C'était quelques années après la sortie de Rêve d'éléphant, 10 ou 11 ans, comme je disais. Il a été l'un des premiers à m'envoyer sa liste de 10 chansons, et nous avons pris rendez-vous pour enregistrer l'entretien. Et puis quelques jours avant la date fixée, au téléphone, Richard Gilly m'explique que tout bien réfléchi, n'a plus trop envie de faire cette émission, ni aucune autre d'ailleurs, et plus vraiment envie d'être encore dans ce milieu de la chanson, qu'en fait il laisse tout ça tomber, et qu'il va redevenir prof de tennis. Les professeurs de tennis forment une corporation à tous égards fort honorable et vis-à-vis de laquelle je professe le plus grand respect. Cependant, je trouvais que la chanson avait beaucoup à perdre dans cette histoire. Mais bon, c'était décidé. Fini. Rideau. En fait, le fleuve était repassé en mode souterrain. Ce qui s'était passé, Richard Gilly vous le racontera lui-même, c'est simple comme tout, c'est arrivé à d'autres, ça en a découragé plus d'un, et c'est tellement symptomatique du sort de la chanson dans notre pays, ou ailleurs, je ne me fais pas d'illusions. Revenu à l'air libre, Richard Gilly a sorti, ça n'était pas facile, un 7e album en 2015, Les Contes de la piscine après la pluie. 7 albums, en 44 ans. Richard Gilly est pour 2 émissions l'invité du temps de faire rien à l'affaire, l'occasion de redécouvrir pour quelques-uns, de découvrir, j'en suis sûr, pour beaucoup, un artiste sensible et une œuvre remarquable.
Tu vas de long en large, tu traces des lignes qui n'ont plus de pages, les phrases perdu l'étage, les noms sont pris en otage, les contes de la piscine après la pluie. T'enfonces le doigt dans l'onde jusqu'à l'oubli de ces gens dont on dit que leurs vélos sont bien trop petits. Tout se passe à l'abri, pas de regard, encore moins de cris, les contes de la piscine après la pluie. T'enfonces le doigt dans l'onde jusqu'à l'oubli. Dis-moi comment tu fais pour que ton monde ait l'air parfait, pour marcher en silence, pour t'enfermer dans cette danse. Entre aucun mot, juste le sifflet des oiseaux.
souvenirs d'enfance, la petite ronde, les petites danses, les contes de la piscine après la pluie. T'enfonce le doigt dans l'onde jusqu'à l'oubli. Dis-moi comment tu fais pour que ton monde ait l'air parfait, pour marcher en silence, pour t'enfermer dans cette danse, pour entre aucun mot, juste le sifflet des oiseaux. Les phrases ont perdu l'étage, les noms sont pris en otage, les contes de la piscine après la pluie. T'enfonce le doigt dans l'onde jusqu'à l'oubli. Dis-moi comment tu fais pour que ton monde ait l'air parfait, pour marcher en silence, pour t'enfermer dans cette danse où rentre aucun mot, juste le sifflet des oiseaux.
Richard Gilly.
Bonjour Jean-François.
Je vais commencer sérieux. Donc nom Gilly, prénom Richard, profession
C'est bien, hein. Multiple. Non, c'est difficile à dire, mais j'ai toujours eu deux professions principales. Mais enfin, je pourrais même pas dire ça parce que c'est vrai que la chanson, en tout cas, la musique et la chanson, je considère pas ça comme un métier, mais... C'est une passion, c'est un sacerdoce également.
Tu considères pas ça comme un métier pour toi personnellement, dans ton expérience personnelle ou en règle générale? Parce que tu vas pas te faire des copains.
Non, je parle de moi. Après, les gens, ils en font un métier, c'est bien. Et puis, mais en tout cas, moi, pour gagner ma vie, j'ai toujours fait autre chose. Et puis, j'ai jamais attendu, en tout cas après ça. Ce qui m'a aussi permis de... d'avoir une ligne de conduite et puis d'aller jusqu'au bout, puisque encore à l'heure actuelle, je continue à faire de la musique.
Alors il paraît que les chats ont 9 vies, et Richard Gilly en a combien lui?
Pour l'instant, j'en ai qu'une, hein. Mais je m'accroche d'ailleurs à cette vie. Non, c'est divisé, ça dépend aussi des périodes. C'est vrai que la musique, certaines personnes m'ont reproché d'être... de faire ça en dilettante, mais ça n'a jamais été le cas. Hein. C'est que j'ai des espaces quelquefois très très longs en fonction de ce qui se passe dans ma vie. Et puis j'ai aussi d'autres moyens d'expression. Alors c'est vrai que j'ai toujours eu... c'est à la fois une chance et puis peut-être que pour la musique, c'est pas, ça prend là-dessus. Mais quand je suis coincé musicalement, des fois ça arrive, hein, qu'on fait tout un album et puis on a l'impression d'avoir tout dit et puis qu'on n'arrivera plus jamais à faire d'autres chansons. Je fais de la peinture, par exemple, ou de la sculpture, parce que j'ai fait une école d'art appliqué quand j'étais jeune. Et puis ça me permet de sortir d'une impasse, on va dire, musicale, pour me projeter dans autre chose et laisser sortir de moi des éléments qui sont à l'intérieur et que j'arrive à extirper.
Donc au bout du compte, une carrière qui n'est pas encombrée par une discographie, on va dire, pléthorique, mais une carrière longue. 1971, le premier album, « Je ne suis pas un grand fermier ». Eh bien ça, 1971, d'ailleurs je suis tombé l'autre jour sur une interview, je crois, dans un numéro de Chorus. Et donc il y a une discographie et le premier album s'intitule, cette discographie, Je ne suis pas un grand fumier.
Ah oui, oui, bah, écoute, il faut que je regarde ça de près.
Mais c'était en 93.
Peut-être que c'était un jeu de mots, hein. Non.
Non, j'ai peur que c'était juste une erreur.
Je ne suis pas un grand fermier, je n'ai qu'un petit lopin de peau. Entre la vallée de tes reins et la lisière de tes seins. Je ne suis pas un grand fermier, mais je laboure tes hanches d'argile. Et j'ensemence chaque année un enfant qui pousse en été. Champ de beauté, ferme d'amour, femme de mes jours.
Donc ce Je ne suis pas un grand fermier, 1971, et puis deux albums qui suivent en 75 et en 77, Les Froides Saisons et Miss Bakelite, et puis après, il y a comme un grand trou quand même. Donc il y avait une carrière qui avait l'air de démarrer, je vais dire de façon entre guillemets, normale au niveau de l'évolution des choses. Et puis qu'est-ce qui se passe après ce troisième album ?
Ça a été difficile. J'ai été produit par Claude Puterflamme, donc sur Flamophone. Et j'avais fait des choses que j'aimais bien, hein, mais au bout d'un certain temps, je trouvais que c'était de plus en plus orchestré, très... Il y avait des arrangeurs qui travaillaient sur mes titres, et même si je travaillais avec eux, j'assistais et j'ai toujours été là, j'ai toujours suivi le travail. C'est difficile quand on est pris en main et qu'on est jeune encore, de s'imposer. Puis, s'il y a un arrangeur, moi je ne savais pas écrire de cordes, des choses comme ça, on laisse la main, je trouve que c'est normal. Et puis au niveau des sons, la production, je trouvais que... Moi quand je jouais avec ma guitare et que je compose, il y a des graves, des aigus, des médiums, j'entends tout ça. Et la mode était... je me souviens d'un album, c'était Supertramp à l'époque. Et je me suis retrouvé avec des guitares, le preneur de son faisait des guitares comme des peines, comme ça, très très fines, très... très aigu, moi j'aime pas ça. Et le résultat, c'est que mes chansons étaient là, c'est vrai, mais j'imaginais une autre couleur. Ce qui fait que par la suite, je me suis produit. Alors ça a été pas évident, parce que quand on se produit au début, on fait ça n'importe où, mais c'était complètement brut. C'est l'album noir là qui est... sur lequel les gens l'appellent râleur, parce que c'est le premier titre de la liste. Puis ça correspond bien, parce que j'avais une voix de râleur, qui était effectivement un peu forcée, mais je crois que c'était une séparation. Je m'en suis pas aperçu sur le coup, mais maintenant quand je réécoute ça, je me dis, t'avais un truc, une espèce de rage, et pour passer à autre chose. Voilà.
J'ai plus qu'un pli au fond du cœur. Je suis plus qu'un vieux rock'n'roller. Je déchaîne plus les foules, les bagueurs. Et je m'emmerde. J'aime une enfant, tout ce qu'il y a de frival, qui a le même profil que Clark Gable. Je bois plus, je fume plus, je tire plus les tapus, mais je m'emmerde. Tes yeux tous les soirs, fallait me voir en
entrer en scène comme toi dans ta baignoire. Plein de gasoline, plein de narcotiques, plein de nicotine. Mais je bois plus, je fume plus, je tire plus les tabus. Et je m'emmerde. Que tu me compares à John Lennon. Je t'ai prise, je t'ai mise, fini, tu m'amuses plus. Tu m'emmerdes. Y'a pas plus de star que celle qui brille dans tes yeux tous les soirs. Fallait me voir entrer en scène comme toi dans ta baignoire. Plein de gasoline, plein de narcotiques, plein de nicotine. Même si je bois plus, même si je fume plus, même si même plus. M'emmerde. Je veux pas que tu ris, je préfère que tu pleures. Je suis plus qu'un vieux rock'n'roller.
Donc c'est la raison pour laquelle aussi tu as repris des titres comme « Va lui dire que c'est une conne » par exemple, sur « Des années d'ordinaire ». Donc tu as repris cette chanson, il y en a une autre que tu as « Blonde » également. Voilà, une chanson comme ça que tu as pu reprendre et remettre un peu alors à ta sauce.
Alors « Blonde » figurait sur l'album noir, mais c'est une chanson, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, cet album dont tu parles, qui a été fait en Louisiane, c'est le premier album qui a été produit au niveau du son, mais on était tous les deux, c'était Freddy Coella, Des années d'ordinaire. Et sur cet album, au début, moi je faisais plus rien. Et lui, j'ai fait un album précédent, le premier que j'ai produit, qui était Rêve d'éléphant. Je l'avais vu sur scène. Il l'accompagnait à l'époque, Willy Deville, voilà, c'est ça. Et il jouait de tous les instruments, mais vraiment dans la couleur de l'instrument, parce qu'il y a des gens qui touchent un peu à tout, mais parce que Willy Deville, c'est quand même assez particulier. Il y a des rocks très très rock, mais de temps en temps, il fait un truc espagnol à la guitare espagnole. Et Freddy, à chaque fois qu'il utilisait un instrument, il était au cœur de l'instrument. Et à la fin du spectacle, comme j'étais dans la même maison de disques que Willy Deville, j'ai vu le manager, on a parlé, et je lui ai dit, tu vois, c'est un guitariste comme ça, dont je rêve. Il m'a dit, si tu veux, je peux lui en parler. Je lui ai dit, non, attends, c'est un mec international et tout, il tourne dans le monde entier. Il m'a dit, bon, t'inquiète, je te rappellerai. Et puis finalement, c'est Freddy qui m'a rappelé. Et il a refait des parties de guitare sur l'album Rêve d'éléphant. Et puis, par la suite, puisqu'on va revenir un peu à la question que tu me posais, à chaque fois qu'il venait, qu'il faisait des tournées, il m'invitait et il me disait « Mais pourquoi tu fais plus rien? Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi ?» Je lui disais oh, « C'est tellement difficile, puisque à l'époque, Fnac Musique avait fermé boutique. Je me suis retrouvé à la rue, je faisais plus rien. » Il avait un studio en Louisiane et il m'a dit « Si tu veux, écoute, tu viens et on travaillera ensemble. » Mais j'étais pas... Il a encore insisté. Il m'a dit « C'est pas grave, t'as pas de chansons. Écoute tes anciennes chansons. T'en choisis deux ou trois. On commencera comme ça. On va les refaire. Puis ça va peut-être te donner goût à reprendre. » Et c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, c'est pour ça que ces chansons figurent sur l'album. Et on les a gardées finalement. Et ça m'a mis le pied à l'étrier puisque j'ai réécrit les autres chansons.
Thank you. va lui dire que c'est une conne, que je l'oublie toutes les nuits entre les bras des madones dans des hôtels un peu gris. Va lui dire que c'est une conne et que je ris toutes les nuits de cet autre qu'elle affectionne dans ses dentelles du pays. Mais dis-lui bien qu'elles ont le ventre bleu, qu'elles vont dans l'autre sens et que je suis heureux. Va lui dire que c'est une conne, que je l'aimais bien trop grand. Jamais une étoile se donne entre les bras d'un mendiant. Mais dis-lui bien qu'elles ont le ventre bleu, qu'elles vont dans l'autre sens et que je suis. Va lui dire que c'est une conne, que je l'aille toutes les nuits, que les bouquets d'anémone se fanent comme les draps du lit. Mais dis-lui bien qu'elles ont le ventre bleu, qu'elles l'ont dans l'autre sens et que je suis heureux. Mais dis-lui bien qu'elles ont le ventre bleu, qu'elles l'ont dans l'autre sens et que je suis heureux.
Si on revient un petit peu en arrière, juste avant Des années d'ordinaire, il y avait un album que je trouve absolument magnifique. C'est par cet album-là que je t'ai découvert, complètement par hasard, en me promenant dans un magasin qui s'appelle La Fnac. Et donc, on mettait en écoute des albums. J'ai mis le casque, j'ai écouté ce truc qui ressemblait à rien, là, avec une pochette dont on pourra parler. Un disque absolument magnifique, donc, que j'ai acheté, j'ai fait écouter à plein de gens, tout le monde a trouvé ça superbe. Et puis, rien derrière. Donc là, t'en as un petit peu parlé, mais t'es arrivé une mésaventure au niveau de la production, de la distribution.
J'avais rien fait pendant une bonne douzaine d'années. Et c'est reparti, mais vraiment en flèche. J'ai eu effectivement toute la presse, j'avais une très bonne critique. Et puis, la Fnac a été rachetée par M. Pinault, Printemps, La Redoute.
Qui avait besoin de sous ?
Oui, en tout cas, lui, il sait faire les comptes. Et il a dit, la maison de disques faisait partie du lot qu'il avait racheté. Et il a dit, mais c'est quoi ça, tant d'argent dépensé ? Alors que c'était le début de cette maison de disques. Donc, il faut investir au début, avant que ça rentre. Il a dit, bon, il n'est pas question que ça continue. On baisse le rideau. Et voilà, donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé effectivement sans rien, alors que ça démarrait plutôt bien, quoi.
Donc un album qui n'a vraiment pas eu la destinée qu'il aurait dû avoir.
C'est ce que les gens disent, oui. Non, mais c'est vrai que bon, il y avait de belles chansons, je trouve. Enfin, ce sont des chansons que j'aime toujours, que c'est un de mes albums préférés, oui.
c'est pas une chanson de marin. Y a pas de port, pas d'embrun. C'est juste pour l'enfant que je porte pas, qui navigue amniotique loin de moi, perdu en mer. Y a pas de quai, y a pas de brume, ni de bouée sous la lune. Je le regarde arrondir ses fins de mois dans le ventre de celle qui fut un jour perdue en mer. Mais laissez-moi lui tendre la main, le tenir serré contre mon sein, même si j'ai rien d'une montgolfière. Je suis souvent con mais tellement fier, perdu en mer. Perdu en mer. Perdu en mer. Y a pas de gilet, pas de sauvetage. Y a ses brassières qui attendent son âge. Traverser les zips des braguettes pour finir après la tempête, perdu en mer. C'est juste une chanson sans refrain que je balbutie, que j'agite des mains. Y a tout qui remonte à la surface, mais je divague les soirs où je me revois, perdu en mer.
Alors, on reviendra sur cette production et puis on va entamer peut-être cette liste aussi. Donc en fait, pour raconter les choses, cette liste est la deuxième que tu me fournis, puisqu'on s'était déjà contacté il y a quelques années pour faire cette émission, que tu m'avais envoyé une liste, que nous avions pris contact de façon assez avancée. On était au moment de faire cette émission et en fait, dans mon souvenir, ce qui s'est passé au téléphone, c'est que tu m'as expliqué que à cette époque-là, t'as plus trop envie de ce milieu de la chanson.
Si j'étais un peu écœuré, quoi. C'est vrai qu'il y a des passages comme ça. Et comme effectivement, je peux toujours faire autre chose, quand je suis bloqué, hop, je repars sur un autre support artistique. Voilà.
Alors, la première chanson qui figure là-dessus, c'est donc un chanteur qui était apparu dans les années 70, un peu une comète qui est au niveau de sa production personnelle, qui est Michel Zacca, qu'on avait connu, je crois, parce qu'il a remplacé Julien Clerc dans R. Et moi, je me souviens même, quand j'étais bien jeune, de l'avoir vu dans la version française de Jésus-Christ Superstar, où il interprétait Ponce Pilate, ce qui est quand même pas mal, hein, dans le genre précision encyclopédique. Mais là, on n'est pas du tout là-dessus. Ce que tu as choisi, c'est une adaptation d'un titre de James Taylor qui s'appelle « Temps de pluie ».
Oui, c'est ça. Oui, je trouve que c'est une superbe adaptation. C'est Farren Rain de James Taylor et c'est difficile de faire, je vais pas dire mieux, c'est pas mieux que James Taylor, mais c'est aussi bien. Voilà. La couleur me correspond bien. C'est assez planant, les guitares sont belles. C'est difficile d'exprimer la musique, ça s'écoute quoi. Je pense qu'il faut l'écouter attentivement et c'est un univers qui est personnel. C'est un excellent guitariste, mais au niveau du chant, il y a beaucoup de réverb et tout. J'aime pas trop ça, mais là, c'est vraiment super bien foutu. C'est très bien construit et c'est une très belle chanson.
Et alors avec une pléiade de musiciens de bonne qualité, je me souviens qu'il y a Jean-Pierre Alarcène, guitariste qui a travaillé avec François Béranger là-dessus. Il y a au piano Georges Rabol qui a travaillé à France Inter, Brigadier Rabol là, dans le tribunal des flagrants délits. Et puis Marc Chantreau aux percussions qui a travaillé avec Ferré. Il y avait du beau monde sur cet album.
Oui, il y avait du beau monde. Oui, j'ai eu la chance effectivement de les croiser un peu tous ceux que tu as cités. Et Michel, je l'ai connu aussi dans les années 70. Bon, on était tous un petit peu dans la même mouvance. Voilà.
Arrivé de l'aube, ils ont fermé ma maison. Suzanne, ils ont coupé l'arbre dans le parc. Je J'ai repris la route, écrit cette chanson pour être encore une fois tout près de toi. Tant de flammes, tant de pluie, tant de jours passés dans le soleil ébloui. J'ai vu tant de solitude sans amis. Mais je voudrais croire que tout n'est pas fini. J'ai fait beaucoup trop de ces voyages où l'on découvre tant de fleurs et des planètes peut-être inconnues. Je suis en âge, mais j'ai froid dans le cœur. Je parlais, tu ne répondais plus. Oh, tant de fleurs. Soleil ébloui. J'ai vu tant de solitude sans amis. Mais je voudrais croire que tout n'est pas fini. J'ai perdu mon âme pour que l'on me donne des nouvelles de tout là-bas. Tu dors et le vent du nord, il frôle tes boucles blondes. Être trop là d'attendre auprès d'un téléphone, une aube qui ne vient pas, un rire pour le souvenir d'une étoile qui tombe. Oh, oh, tant de flammes, tant de pluie, tant de jours passés dans le soleil ébloui. Tout n'était peut-être pas encore fini.
Le second titre qui apparaît sur cette liste, c'est quelqu'un que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Eric Truffaz, qui n'est pas un chanteur, qui est un trompettiste de jazz, et qui donc, dans cet album qui s'appelle Arkhangelsk, est allé chercher des voix pour poser sur sa musique. Et là, c'est celle de Christophe, sur un titre qui s'appelle L'un dans l'autre.
Oui, c'est un trompettiste qui est quand même très connu hein, pour les jazzman. Je trouve qu'il a beaucoup de sensibilité également, que c'est un univers qui est doux, qui est tendre, qui est mélancolique. Et là, Christophe, il a une voix qui est super aiguë. Je ne suis pas trop branché, hein, les voix aiguës, mais je trouve que ce mélange est vraiment très très réussi.
Une production où vraiment la dimension musicale prime, je crois, sur la réalisation de la chanson.
Oui, la voix est un instrument. Hein. Bon, c'est vrai que moi, peut-être, Parce que dans mon enfance, c'est plutôt l'opéra qui m'a bercé, puisque mon père chantait en tant que choriste, mais il était baryton à l'opéra. Et c'est vrai que la voix est un instrument. C'est pas que fait pour dire des textes. Il y a aussi des notes. Moi, j'ai du mal à les faire, les notes. Alors, je remplis avec du texte, mais j'apprécie les gens qui tiennent les notes également.
Oui.
On parlait à l'instant, tu évoquais à l'instant tes premières influences musicales, donc l'opéra italien. Donc ça, c'est une influence familiale. C'est pas évident, un gamin qui baigne dans l'opéra.
Ben si, c'est parce que c'est pas. Je pourrais te citer aucun auteur, aucun. Mais tout petit, mon père, il répétait à la maison déjà. Et puis de temps en temps, il m'emmenait aux répétitions. Ma mère le rejoignait à l'opéra pour voir certains spectacles. Elle m'emmenait. On faisait pas garder les enfants à l'époque. Donc j'assistais les répétitions, tous ces trucs-là, les décors, les costumes pour un gosse, c'est y a pas mieux quoi. Bon, maintenant, ça, on voit ça sur des écrans. Mais moi, je touchais le velours des costumes, les plumes des chapeaux. Je me déguisais, j'en ramenais à la maison. C'était magnifique, fascinant. Oui, et je crois qu'aussi, j'ai peint par la suite de cette même façon, parce que les décors, c'était des choses en carton hein, qui étaient découpées. La neige était artificielle, mais c'était féerique. Voilà, et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué.
Alors ça, c'est La vie au grand air, en fait. Il y a une chanson qui s'appelle comme ça, La vie au grand air. Donc c'est l'air d'opéra. Et puis alors, de cet air d'opéra, t'es passé à d'autres airs après.
Ah oui, cette chanson, oui, c'est un raccourci de ma vie. Oui, c'est vrai. Et donc, dans cette chanson, je raconte tous les titres, enfin les titres, peut-être plus les... Encore une fois, je vais parler de couleurs, mais les couleurs musicales que des titres, et je fais un raccourci de ma vie. C'est difficile hein, de parler de cette chanson, c'est parce que de parler de sa vie, c'était plus facile pour moi de faire la chanson que de t'en parler.
Une vie au grand air, de la Tosca au rythme binaire. Une vie au grand air, de l'Italie à l'Angleterre. De la Phénix au cave de Liverpool. Tous les Blackbirds, toutes les Butterflies sur leurs ailes m'emmenaient la nuit, me faisaient traverser le Channel. On s'endort pas toujours quand il fait noir. On s'endort pas toujours quand il fait noir. Une vie au grand air où tombaient toutes les héroïnes. Une vie au grand air, y avait pas Clapton, cocaïne, mais Puccini et le putsch en Algérie. Et puis un jour, mes frères sont partis en kaki. Et la Wallou finit dans le riff, la vie de famille. On s'endort plus pareil quand il fait noir. On s'endort plus pareil quand il fait noir. Une vie au grand air, un pavillon couvert de lierre. Une vie en meulière et les enfants courant derrière. Dans ma banlieue, les tziganes jouaient Django. Tous les arpèges et les vocalises au petit-déj. Et la Wally qui répond au riff de Jimmy. On s'endort plus tout seul quand il fait noir. On s'endort plus tout seul quand il fait noir. Rainbow. Putain. putain de monde, putain de terre, paraît que t'es ronde. Mais tu le sais bien, tout tourne pas pareil pour tout le monde. On s'endort plus jamais quand il fait noir. On s'endort plus jamais quand il fait noir. Et puis tu chantes pour oublier que t'es pas bavard. T'es qu'une miette, une tache, une mouche sur un buvard. T'es tout petit, t'es pas mouse, t'es qu'une souris. Tous les blackbirds, toutes les butterflies sur leurs ailes. Mais ça me suffit pour me faire traverser le channel. Même si maintenant il y a le tunnel.
Donc, ce qui est arrivé après ça, c'est arrivé par où? Alors, par Dylan, Presley, Clapton, Hendrix après?
Oui, enfin oui, c'est vrai qu'à un moment, je parle d'Hendrix, je crois. Il y a les Beatles, il y a des choses comme ça qui sont... Bon, c'est un peu incontournable. Hein, bon, ça dépend des périodes, ça dépend de l'âge. Il y avait... Je me souviens plus très très bien de tout ce que j'ai raconté dans cette chanson, mais... Ouais, tu vois, c'est difficile, hein. Tu me poses une question. Le chanteur important, c'est Dylan. C'est vrai que avant, bon, Brel, c'était mon père. Il chantait du Brel, parce qu'il chantait pas que de l'opéra. Et puis, j'ai commencé moi à jouer de la guitare en l'accompagnant. Il chantait dans les cafés, dans les fêtes familiales. Et donc, ça aide un peu quand même pour construire des chansons. J'ai commencé. J'étais obligé d'apprendre des accords et ainsi de suite. Mais le vrai déclencheur, c'est Dylan, avec les tout premiers albums et un album que bon, les gens disent toujours que c'est un boy scout. Et c'est Hugo Frey qui avait traduit un album où c'était Aufray chante Dylan. Et c'est super bien traduit. Et j'ai commencé, moi, à ce moment-là, à chanter, à faire des reprises de ça. Et puis, c'est, oui, je pense que c'est l'influence la plus importante. Après, on en parlait, de James Taylor. Et puis, c'est vrai que c'est toute cette musique anglo-saxonne. Mais ne comprenant pas l'anglais, j'ai commencé à faire mes propres chansons. Parce que, je sais pas, je trouvais pas, j'entendais plein de trucs. Qui étaient, mais à chaque fois, je comprenais pas les paroles. Alors, je me suis fait mes petits textes à moi. Et c'est comme ça que j'ai fait des chansons.
C'est vrai qu'avec ton goût pour les chansons anglophones, toi, tu as toujours écrit en français. Mais si tu ne parles pas anglais, ça s'explique.
Si tu passes là-bas vers le nord, où les vents soufflent sur la frontière, n'oublie pas de donner le bonjour à la fille qui fut mon amour. Si tu croises les troupeaux de rennes vers la rivière à l'été finissant, assure-toi qu'un bon châle de laine la protège du froid et du vent. A-t-elle encore ses blonds cheveux si longs qui dansaient jusqu'au creux de ses reins? A-t-elle encore ses blonds cheveux si longs? C'est comme ça que je l'aimais bien.
demande si elle m'a oublié. Moi j'ai prié pour elle tous les jours, dans la lumière des nuits de l'été, dans le froid du petit jour. Si tu passes là-bas vers le nord, où les vents soufflent sur la frontière, n'oublie pas de donner le bonjour à la fille qui fut mon amour.
C'est sur cette reprise de La Fille du Nord de Bob Dylan que se refermera ce premier volet de notre entretien avec Richard Gilly, que je vous invite donc à retrouver en notre compagnie la semaine prochaine. Cette semaine, dans le temps ne fait rien à l'affaire, vous avez pu entendre Michel Zacca, Éric Truffaz et Christophe, et surtout, bien sûr, Richard Gilly, avec qui nous avons à peine entamé l'écoute des titres de sa liste. On se garde un peu de boulot pour la semaine prochaine. Merci à Fred qui était aux manettes aujourd'hui. C'était le temps ne fait rien à l'affaire, l'émission de la chanson non crétinisante sur Marmite FM 88.4. Salut, c'était Jean-François, à mercredi prochain.